Projet de séminaire, notre séminaire tel qu'il s'est tenu pendant l'année avait deux objectifs principaux. C'était de faire d'abord un état des lieux sur le thème écologie-religion, donc deux sujets qui sont de plus en plus croisés par un certain nombre de chercheurs dans différentes matières. Donc on voulait faire un peu se rencontrer tout ce monde-là, premièrement pour faire tenter une cartographie des endroits où on pensait ces deux termes ensemble. Et puis deuxième ambition, c'était d'identifier les personnes qui travaillent sur ces sujets et aussi d'identifier à l'intérieur de ces travaux les axes programmatiques, les axes conceptuels qui étaient peut-être communs à toutes ces recherches. Donc on a organisé 8 séances durant l'année universitaire. Chacune était organisée autour de 1 ou 2 intervenants et il y en a quelques-uns qui sont là ici. On remercie de leur participation durant l'année. Ce qui est ressorti de ces séances, c'est qu'on a constaté le grand foisonnement des recherches qui lient ces objets. Je pense qu'il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent à ces deux objets en même temps, écologie et religion. Et en même temps, on a constaté la diversité qui existe selon les domaines et les champs de recherche. Diversité dans les problématiques abordées, diversité dans les définitions utilisées aussi. Et c'est un peu cette diversité-là qu'il s'agit aujourd'hui qu'on voudrait un petit peu problématiser. Et d'abord, en introduction, commencer par revenir sur cette diversité en évoquant successivement les approches théoriques, puis les approches théologiques, puis les approches sociologiques et anthropologiques que nous avons pu écouter pendant l'année. Alors, il ne s'agit pas de réduire tous les intervenants les uns aux autres, mais vraiment d'essayer de systématiser un peu ce qu'on a retenu de cette année, et de vous faire un rapide retour là-dessus. Alors, je vais commencer tout de suite par parler donc de l'approche théorique. Alors, je dis approche théorique, c'est surtout, en fait, on a reçu plusieurs philosophes durant l'année. Et il y a eu aussi des sociologues qui nous ont présenté des travaux assez théoriques, donc je vais évoquer un peu les deux en même temps. Donc c'était des chercheurs qui s'interrogent sur la relation entre écologie et religion à partir donc d'une approche théorique. Et on peut remarquer, mettre en avant une certaine singularité dans leur tentative de penser ensemble ces deux termes donc, que sont écologie et religion. Dans les théories présentées, l'intérêt du croisement entre ces deux objets reposait surtout sur le constat, à mon avis partagé par tous nos intervenants, de la perte d'évidence de l'universel. L'idée que ce qui nous lie, ce qui fait du commun, ce qui est universalisable, n'est plus évident et que donc ça sape les conditions de possibilité d'une action qui soit authentiquement libre pour l'homme. Puisque ici, la liberté est donc considérée comme relative. On est libre par rapport à quelque chose et pas libre dans l'absolu. Et donc, cette liberté, pour exister de manière authentique, devrait reposer sur la connaissance du cadre de son déploiement. Or, la crise environnementale, tous les problèmes en général posés par l'écologie, révèlent d'une part le lien problématique entre connaissance et action. Ça, c'est le problème de la dissonance cognitive, bien soulevé par M. Dupuis, l'idée qu'on sait, on a connaissance de la gravité de la crise environnementale, mais pourtant on n'agit pas. Premier problème. Et d'autre part, l'insuffisance de la connaissance moderne du monde, l'idée que notre rationalité instrumentale, on pourrait dire peut-être occidentalo-centrée, est insuffisante pour comprendre le monde dans ses aspects les plus dynamiques. Donc ces problèmes, en fait, viennent remettre en cause, viennent délégitimer partiellement le projet émancipateur de la modernité. Et selon ces conceptions qu'on a eu l'occasion d'écouter, être libre nécessite de connaître les limites de sa liberté. Et donc il y a l'idée que la liberté est la critique de l'idée de liberté illimitée, qui est une idée trompeuse et même fallacieuse, on peut dire fallacieuse dans un sens politique, puisque penser qu'on a une liberté illimitée, en fait, serait générateur d'aliénation et pas d'émancipation. Par exemple, la puissance technique illimitée a pour pendant, pour réalité concrète, la catastrophe écologique. Donc de là découle, pour ces intervenants, l'importance de refonder l'entreprise de connaissance du monde. Et c'est ce programme théorique qui se décline à travers l'écologie. Écologie qui est considérée, qui est pensée comme une théorie des limites en même temps qu'une pensée de la totalité. Alors, je m'explique. Dans ces interventions est ressortie l'idée que l'écologie était une science, mais qu'elle se distingue de façon critique d'une science positive, une science positive qui ne pourrait connaître qu'en séparant, et notamment en séparant nature et culture. Et donc, cette science positive est condamnée à expliquer l'objet, mais jamais le sujet, on a entendu. Autrement dit, il y aurait un aspect statique et limité de cette science qui ne permettrait pas de connaître le tout dans son aspect dynamique. Et ce tout ne pourrait être appréhendé, ne peut pas être appréhendé par cette science, il ne rentre pas dans ses catégories, ce qui conduit à le négliger, à l'ignorer techniquement et moralement, et donc à nous rendre incapables d'agir. Les approches théoriques donc, qui formulent cette critique manifestent, à partir de cette pensée de l'écologie comme science qui serait capable de penser le tout, ces approches théoriques manifestent un double intérêt pour la religion, et je m'arrêterai là-dessus. Hein. Donc, d'abord, la religion est considérée comme un holisme, c'est-à-dire comme une appréhension de la totalité, et selon ce premier aspect, il s'agit de revenir sur l'opposition stricte entre science et religion. Il y a l'idée que la religion, à condition de se dégager de sa part de superstition, de dogmatisme, serait formellement parallèle à un projet scientifique conséquent, et donc au projet écologiste de connaissance de la totalité. Ensuite, second niveau, c'est le niveau de l'action humaine. La religion est mobilisée en tant que discours sur le sacré. Cette référence au sacré est revenue de manière récurrente dans les discussions. Puisque si la méconnaissance du tout fonde l'anomie, déresponsabilise l'homme, rend son action inconséquente, un savoir qui serait holiste participerait au contraire de la liberté de l'homme en rendant son action responsable et conséquente. Donc le sacré est évoqué dans ces discours comme l'outil par lequel la société organise la normativité. Le sacré permet en même temps la cohésion sociale et la liberté individuelle. Donc ce sacré n'est pas forcément religieux dans le discours qu'on a entendu. Toutefois, les religions en détiennent une certaine expertise particulière. Et il faut donc que l'écologie entretienne un dialogue avec la religion. Et ce double intérêt de la religion, donc pour la religion, donc la religion en tant qu'instance cognitive de connaissance et instance performative d'action, se traduit de manière plus empirique par aussi un questionnement stratégique sur la relation des religions instituées avec l'écologie, d'une part, et d'autre part sur la mobilisation des ressources théologiques et spirituelles dans la fondation d'une éthique environnementale. C'est un peu ça, il me semble, les grandes idées qu'on a eu l'occasion d'écouter par rapport à une approche plus philosophique. Je laisse la parole à Ludovic pour qu'il évoque l'approche théologique qu'on a eu l'occasion d'entendre.
Oui, donc on a reçu aussi quelques théologiens durant cette année. Et donc on aurait pu penser qu'à l'intérêt donc pour les religions exprimées par les penseurs de l'environnement, par ces philosophes en particulier, qui sont soucieux de la performativité des constats établis par les scientifiques, donc ce qui a été découvert par la science au niveau du réchauffement climatique, etc., soit appliqué. Donc on aurait pu penser qu'à cet intérêt pour les religions devrait répondre la parole des théologiens et que cette parole des théologiens, elle devrait se conclure sur un grand oui à l'efficacité de la religion et un oui à la nécessité du retour des spiritualités dans notre monde rationnel. Pourtant, force est de constater que les théologiens n'ont sur la question du rapport entre religion et écologie pas du tout ce point de vue. Ils n'ont pas le même point de vue, ils ne partent pas du même point de vue que les philosophes. Alors bien sûr, ils sont d'accord sur le fait que la dévalorisation du matérialisme est quelque chose de mauvais. Enfin, ils sont d'accord sur l'idée qu'il faut dévaloriser le matérialisme. Ils sont aussi d'accord sur... On peut déceler dans leur approche une appropriation des raisonnements stratégiques quant à l'opportunité de mobiliser des autorités morales. Mais ces éléments n'occupent pas une place centrale dans le discours théologique. Pourquoi ? Parce que ces questions, pour les théologiens, semblent aller de soi. La problématique de la complémentarité de la raison et de la foi n'est donc que rapidement évoquée, d'autant plus que les sciences environnementales ne pose pas de problème d'ordre théologique comme pouvait l'être la théorie de l'évolution, etc. Donc, les acteurs religieux vont intervenir davantage sur ces questions du croisement entre religion et écologie pour démontrer que la tradition et les sources sacrées traduisent une sagesse qui, aujourd'hui encore, nous est utile. Donc on a pu entendre dire des théologiens nous dire la religion reste vectrice de sens en dépit des phénomènes historiques. Alors que les philosophes attendent que des religieux, donc qu'ils interviennent pour défendre des vérités établies scientifiquement, les acteurs religieux s'attachent donc à défendre la validité des propos enseignés par la religion ou les religions. À la lumière de cette distinction, on comprend mieux donc pourquoi l'accusation portée par les pionniers de l'écologie politique envers l'anthropocentrisme chrétien, et je pense bien sûr à Lynn White, a pu marquer et marque encore le discours théologique du christianisme sur la crise environnementale. En effet, pour des théologiens, il est inacceptable d'admettre que la conception biblique est aujourd'hui dangereuse pour notre société. Les réflexions des acteurs chrétiens sur l'écologie intègrent donc consciemment, voire inconsciemment, ce reproche et s'attachent à défendre la ou une des cosmologies chrétiennes en envisageant les capacités de réponse aux défis écologistes que leur théologie ou leur conception chrétienne, leur cosmologie chrétienne offre. Les autres traditions religieuses n'ont certes pas eu à souffrir de telles accusations et ont même pu bénéficier d'un climat favorable. Donc, par exemple, l'orthodoxie fait figure d'exception dans le christianisme, mais c'est surtout les religions orientales qui ont eu la faveur des pionniers de l'écologie. Cependant, la manière dont le dialogue se construit entre christianisme et écologie se répercute sur les autres religions au travers de la structuration d'un dialogue interreligieux portant sur ces questions de protection environnementale. Il s'agit alors toujours de montrer, dans le prolongement ou dans le renversement de la thèse de Lynn White, que le discours écologiste peut être vu comme le prolongement d'arguments théologiques sur la juste cosmologie à adopter. Donc cette posture introspective, il s'agit de revenir sur sa tradition, ne valide ni n'interdit des postures intransigeantes envers les autres cosmologies. On n'est pas obligé d'être intransigeant pour autant. À vrai dire, toutes les combinaisons sont possibles. Prosélytisme, valorisation du caractère interreligieux de la problématique environnementale, relativisme pluraliste, etc. Mais cet angle d'approche de la réflexion théologique empêche les acteurs religieux de questionner la nature de l'adresse formulée par les philosophes. Donc ils ne questionnent ni le timing de cette adresse des philosophes, qui se fait par exemple juste avant la COP21, ni dans ce que cette posture présuppose, notamment concernant l'instrumentalisation et la vision de l'autorité religieuse de la part de ces acteurs. Donc la dernière approche est celle de DSHS. Voilà. Je laisse à Naïta.
Donc du côté DSHS, la posture a été encore une fois complètement différente et de manière assez surprenante, puisque dans l'ensemble des sociologues et des anthropologues que nous avons reçus, en dehors de Jean-Paul Willem, il n'y avait pas de sociologue des religions. Donc non pas que nous n'ayons pas cherché, mais en fait le champ semble quelque peu déserté, le champ du croisement entre environnement, écologie et religion.
En France.
En France, bien sûr, puisque, comme vous le savez, on va écouter trois personnes tout à l'heure qui vont nous parler de ça. Mais alors, ce qui était intéressant, c'était que justement, ces gens venaient d'autres sous-champs disciplinaires de la sociologie, notamment la sociologie des mouvements sociaux ou la sociologie rurale. Et dans tous les cas de figure, l'élément religieux n'était pas au cœur de leur démarche, c'est-à-dire qu'il n'était pas au cœur de leur objet d'étude, mais arrivait presque de façon inopinée, par hasard, sur leur terrain de recherche et les questionner tout d'abord de manière intuitive et ensuite, donc, ils se dotaient des instruments nécessaires pour les analyser, mais néanmoins, ça ne se faisait jamais de manière directe et finalement, ce déplacement-là de l'objet était assez fructueux et a donné libre cours au débat durant le séminaire. Donc, dans le cas des anthropologues, c'est le phénomène inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que c'est l'élément écologique qui n'apparaissait pas en tant que tel dans les terrains sur lesquels travaillaient ces personnes, mais finalement, la rencontre avec des éléments pouvant être reliés à l'écologie et l'écologie politique donnait lieu à des reformulations de l'objet et du terrain qui était aussi extrêmement fructueuse parce qu'en fait, ils étaient mis face à l'évidence devant les revendications des acteurs sociaux se réclamant du religieux quant à ces questions. Dans le cas des SHS, ce n'est pas l'injonction à l'urgence de sauver la planète qui est au cœur de la démarche de recherche, et la définition d'une éthique environnementale n'est pas non plus l'objet de la sociologie et de l'anthropologie. Il n'y a pas non plus d'union sacrée autour de grands principes qui devraient, dans une utopie lointaine, guider le mieux vivre. Et c'est un regard qui souvent surprenait par sa neutralité, voire son cynisme, ou la volonté de déconstruire des choses qu'il est quand même courant de ne pas déconstruire, comme encore une fois, là, si je repense à l'urgence de la planète, c'est une formulation qui fait plutôt consensus et qu'il est difficile de remettre en question. Donc la définition durkheimienne de la sociologie, héritière de la pensée positiviste, établissant la scientificité comme sa raison d'être, se méfie doublement du croisement entre écologie et religion. Et il suffit pour s'en convaincre de consulter les archives de du dernier congrès de l'Association française de sociologie, qui s'intitulait cette année « La sociologie, une science contre nature », avec un point d'interrogation, mais la réponse était déjà donnée. Cela a une grande exception près, dans l'espace francophone. En 1992, Daniel Hervieux-Léger et James Beckford convoquent un colloque à Cerisy, appelé « Religion et environnement », dans lequel Vincenzo Pace a pris part, qui est retranscrit dans un recueil de contributions et qui demande, en fait, qui est une sorte d'appel à dévoiler ce champ de recherche entre l'écologie et la religion, mais qui reste, encore une fois, dans l'histoire contemporaine de la sociologie, abordé en pointillé par des acteurs singuliers et toujours comme si c'était de façon indirecte. Donc finalement, ce décalage était à la fois intéressant en ce qu'il faisait naître comme questionnement, que nous n'avions pas forcément, mais il était également un tout petit peu handicapant, parce que finalement, on avait très peu de bases communes sur lesquelles discuter, notamment, et on reviendra dessus dans la conclusion, en termes de concepts que l'on peut utiliser en commun et sur lesquels se mettre d'accord. Donc les participants au séminaire nous ont donné envie de croire, malgré tout, que les sciences sociales et humaines sont parvenues à atténuer le sillon originel de la sociologie française par les apports notamment de la sociologie historique développée par Max Weber et fondée sur l'analyse, et c'est là un point où on se retrouvait, des visions du monde ou Weltanschauungen des acteurs sociaux. Au-delà de la tendance générale, qui elle aussi est remise en question à la sécularisation, les travaux contemporains de terrain en SHS révèlent le croisement entre sociologie et écologie et religion sur les terrains les plus inattendus. Et c'est sur le chapitre des mouvements sociaux que l'on s'attend le moins à les retrouver. En fait, cette entrée constitue un questionnement classique des travaux en SHS sur l'écologie et l'environnement, et l'écologie y est présentée comme un véritable courant politique. Mais un présupposé sous-tend dans l'imaginaire collectif et dans la plupart des travaux historiques ou sociologiques qui s'intéressent aux mobilisations, et qui est celui de l'athéisme constitutif des mouvements sociaux que l'on voudrait politiquement situer à gauche dans le cadre de sociétés sécularisées. Or, les personnes qu'on a pu accueillir pendant le séminaire nous ont montré que ce n'était pas forcément le cas, et que l'entrée par l'écologie renouvelle la question des mobilisations et les scissions même qu'il peut y avoir au sein de la sociologie des mouvements sociaux et des nouveaux mouvements sociaux. Donc, qu'ils soient nouveaux ou classiques, ces mouvements sociaux accueillent aussi des manifestations que l'on peut situer sur le spectre politique comme étant politiquement conservatrices, si on veut garder des termes du langage courant, ou s'égrènent au fil de la vie quotidienne à travers des actions revendiquées comme des formes de résistance, donc à partir de techniques du corps, de modes de consommation, de modes d'habiter, ou encore de mobilisation, d'occupation, de pratiques de désobéissance civile. Et l'entrée par l'écologie dévoile, dans ces mouvements sociaux environnementaux, des formes de croire qui s'apparentent davantage à l'individualisation des pratiques et des croyances attribuées aux citoyens ordinaires, tout du moins dans la société française, qu'à l'opposition à toute forme de religieux que l'on prête habituellement aux militants. À y regarder de plus près, donc, les trajectoires politiques dans lesquelles ces prises de position écologistes s'insèrent revêtent le plus souvent une démenseuse religieuse forte, pour autant qu'elle soit radicale. Donc, hygiénisme et contre-culture, par exemple, pacifisme, bouddhisme occidental. De là, une forte dimension contestataire, ramenant les bricolages autour des traditions au centre, contestant la modernité comme modèle absolu de domination. Mais encore une fois, dans les interventions qui nous ont été présentées, cela restait à l'état d'intuition ou d'observation qui ne rentrait pas dans le cadre d'un corpus théorique important. et les analystes intégraient l'un et l'autre élément sans pour autant les aborder de manière frontale.